Bonjour et bienvenue dans The Banana Split Project, le podcast qui épluche l'identité des Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je m'appelle Viviane Salin, je suis moi-même française d'origine asiatique, ma mère est de Hong Kong, mon père d'Indonésie, je suis née en France, je suis française et j'habite à Singapour depuis 2006. Dans ce 15e épisode, je reçois Kylian, notre plus jeune invité à ce jour, qui m'a dit « Viviane, je veux absolument te raconter l'histoire fascinante de ma grand-mère ». Son récit nous transportera au temps où Phnom Penh était encore ce cocon bourgeois avant que les bombes ne chassent sa famille en Thaïlande, puis en France, où Kylian est né. Il nous dresse le portrait de sa grand-mère, cette femme forte et intelligente qui a su recréer une vie en France pour sa famille, mais qui s'est ensuite dévouée et retournée dans les camps de réfugiés en Thaïlande pour aider les Cambodgiens. Et pas seulement, vous verrez. Sur les pas de sa grand-mère qui l'admire, Kylian a étudié à New York dans l'idée ensuite de revenir en Asie et contribuer au développement du Cambodge. Il vit maintenant à Singapour depuis 1 an et demi et incarne pour moi le renouveau technologique et économique possible du pays de sa grand-mère. Mais qu'est-ce que l'histoire de sa grand-mère révèle de l'histoire du Cambodge, de sa relation avec la France et de sa complexité ? Quelle vision pour le Cambodge demain Kylian apporte-t-il ? Nous allons le découvrir ensemble. Alors, bonjour Kylian.
Bonjour.
On a dit que tu voulais parler de ta grand-mère absolument, mais on va d'abord resituer un petit peu le contexte. Mmh. On a quand même besoin de savoir comment tes parents sont arrivés du Cambodge en France, en quelle année et par quels moyens.
Donc, mes deux parents sont cambodgiens. Mon père a été un peu plus chanceux parce que lui, à la base, il avait émigré en 74, donc un an avant que les Khmer Rouges arrivent au Cambodge, pour des raisons économiques. Du coup, en fait, la grand-mère dont je souhaite parler, c'est plutôt ma grand-mère du côté maternel. Pour situer un peu, ils ont fui à peu près un mois avant que les communistes au Cambodge arrivent. En fait, c'est en partie grâce à leur statut social. Donc, c'est-à-dire que mon grand-père était... Il était PDG, en fait, de la joaillerie nationale au Cambodge. Il travaillait dans certains cabinets ministériels au commerce, il me semble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère et ses frères et sœurs étaient encore au Cambodge pendant que mes grands-parents étaient en vacances en France. Et ils ont commencé à entendre que les bombes commençaient à se rapprocher de Phnom Penh.
Donc là, on était en quel mois, de quelle année?
Donc on était plutôt à février-mars 1975. Donc juste pour resituer, les Khmer Rouges ont débarqué à Phnom Penh en avril 1975.
Tes grands-parents étaient en vacances en France, ils ont entendu parler de ce qui allait arriver, ils ont voulu sauver leurs enfants.
Donc pour les communistes, on savait pas forcément que les Khmer Rouges allaient arriver. Ce qui inquiétait surtout mes grands-parents, c'était que les bombes donc de tout camp, américaines, cambodgiennes, commençaient vraiment à se rapprocher de la capitale. Parce que pendant longtemps, ce que mes parents m'ont dit, c'est que la capitale, Phnom Penh, était un peu cette espèce de bulle. Que même si dans tout le pays, surtout aux frontières avec le Vietnam, en Thaïlande, il y avait pas mal de combats, Phnom Penh restait un peu ce cocon isolé. Et du coup, quand ils ont appris que les bombes, en fait, commençaient à se rapprocher de la ville, de la capitale, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à paniquer.
Donc, ils ont voulu rentrer, reprendre leurs affaires pour repartir, c'est ça?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère a vraiment voulu être très prudente. Elle est d'abord rentrée en Thaïlande, où elle avait obtenu un visa de tourisme. Qu'elle a passé des appels, en fait, pour dire à mes parents de commencer à se préparer, surtout ma mère et ses frères et sœurs, parce que mon père était déjà en France. Elle, en fait, elle voulait quand même superviser la chose, s'assurer qu'ils montent bien dans un avion. Elle a eu un épisode un peu digne de James Bond. Elle a traversé, en fait, la frontière thaïlandaise illégalement, parce qu'en fait, si elle rentrait au Cambodge, elle aurait perdu son visa de tourisme thaïlandais. Donc, elle a soudoyé certains gardes de la frontière, j'imagine. Elle s'est rendue à Phnom Penh, qui est quand même à peu près à 5 ou 6 heures de la frontière thaïlandaise, si je m'abuse. Et donc, elle s'est assurée que ma mère et ses frères et sœurs, du coup, prennent l'avion. Et elle, et puis après, elle est repartie de son côté, de la même façon dont elle est venue. Je crois que c'est un hélicoptère en voiture. Donc, elle a retraversé la frontière illégalement. Et puis après, ils sont restés un mois en Thaïlande, le temps de trouver une terre d'accueil. Et finalement, c'était la France.
Quelle histoire. Ouais. Donc ça, ce n'était que le début des aventures.
Et ça, c'était que le début de l'aventure. Pour l'anecdote un peu marrante, ce que ma mère m'a raconté, c'est que l'avion, en fait, qui venait les chercher pour les emmener en Thaïlande, a atterri. Tous les passagers sont rentrés directement après que l'avion ait atterri. Et puis, l'avion est parti directement pour la Thaïlande.
C'est vraiment en urgence, en catastrophe.
Exactement, ouais.
Ils sont arrivés ensuite en France, c'est ça, depuis la Thaïlande.
Exactement.
Donc, ils sont arrivés à Paris. Qu'est-ce qu'ils ont fait les premières années?
Donc, les premières années, c'était très, très difficile parce que, surtout quand on venait d'un statut très bourgeois comme le nôtre. D'abord, ils ont commencé à monter une épicerie un peu en banlieue parisienne dans le Val-de-Marne. Ma grand-mère, en fait, a brièvement travaillé pour un huissier. Mais c'est surtout, en fait, ma grand-mère qui tenait un peu les rênes. Donc, c'est elle qui a l'initiative de l'épicerie. C'est elle qui a beaucoup, en fait,
qui a aidé la famille,
etc., ouais. pour s'assurer qu'ils allaient à l'école.
Donc, toi, tu es née dans ce contexte-là, en banlieue parisienne. Ouais. Une enfance heureuse.
Oui, une enfance très heureuse. Je pense, je voulais pas sur l'heure non plus, mais je pense que j'ai toujours eu ce que je voulais. J'ai pu aller à l'école, j'ai pu travailler, toujours grandir dans de bonnes conditions.
Et ensuite, tu es parti faire tes études à New York.
Oui, je suis parti faire mes études à New York. Moi, en tant qu'enfant de réfugié, c'est-à-dire que j'ai un peu la chance d'avoir de la famille partout aux États-Unis, ils ont commencé à me parler du système américain et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Donc après, je suis parti à New York pendant 3 ans.
Puis tu es revenu à Paris pour finir tes études.
Je suis revenu à Paris pour faire un master et puis après un an de master, j'ai déménagé à Singapour.
Toi, dans l'idée, tu voulais absolument te rapprocher de l'Asie. Tu m'as dit, c'est ça, tu voulais absolument revenir pour te rapprocher du Cambodge pour un jour pouvoir peut-être contribuer.
C'est ça exactement. Donc à la base, moi, je voulais être économiste du développement. Mais finalement, je me suis rendu compte que peut-être que la manière la plus efficace pour moi de vraiment aider le pays, c'était peut-être de monter une boîte. Et je pensais que du coup, Singapour, c'était vraiment une bonne idée pour faire la transition entre mon projet futur d'aller au Cambodge et monter une boîte et commencer ma carrière, engranger de l'expérience, tout en faisant des visites assez fréquentes au Cambodge. Donc, j'y retourne tous les 2 mois quand même.
D'accord, parce que tu parles Khmer couramment.
Je parle Khmer d'une façon où je peux me débrouiller. Que quand je suis avec ma famille, j'ai pas le choix, je dois parler Khmer. Mais après, pour les discussions un peu plus business, ça va forcément être en anglais. Et j'ai remarqué que même les Khmer entre eux, quand ils parlaient de quelque chose, d'une discussion assez business, comme les termes techniques sont en anglais, c'est assez drôle de voir les Khmer parler anglais entre eux.
Entrons dans le vif du sujet, parce que tu m'as dit que tu voulais absolument me faire le portrait et le récit de ta grand-mère qui m'a l'air fascinante. Mmh. Une femme forte et ambitieuse, c'est ça qui a beaucoup contribué au pays.
Dans les années 85, donc c'est à ce moment-là qu'il y avait une des plus grandes crises migratoires par rapport à l'Asie du Sud-Est, on a beaucoup entendu parler des Boat People. Elle a voulu revenir sur le front, donc elle est partie en Thaïlande pour travailler pour cette organisation de l'ONU qui s'appelait UNBROS, ça s'appelle United Nations Border Relief Operation. Elle, son job vraiment consistait en fait à aller sur le front, dans les camps de réfugiés, faire la traduction en fait, parce qu'elle parlait thaï, elle parlait anglais, elle parlait français, donc ça a aidé vraiment beaucoup pour aider les réfugiés, donc elle a aussi beaucoup participé en fait à faire en sorte que les réfugiés puissent trouver des pays d'accueil. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, elle a retrouvé des cousins de ma mère, donc ses neveux, ses nièces dans les camps. Et en fait, ce qui fait que aujourd'hui, en fait, donc, elle a aidé ces membres de la famille-là dans les camps, en fait, à trouver un endroit au Cambodge. Ce qui fait que moi, quand, par exemple, je vais aux États-Unis, j'ai de la famille à Chicago, j'ai un statut assez privilégié juste parce que je suis son petit-fils. Enfin, les gens qu'elle a aidés, du coup, se sentent vraiment redevables parce qu'elle leur a permis, en fait, de partir aux États-Unis, de rebâtir leur vie. Et c'est ça qui a vraiment fait la différence. Et je pense que le fait qu'elle s'expose vraiment, qu'elle soit sur le front, en Thaïlande, en 85, le traitement des réfugiés cambodgiens par les autorités thaïes n'était vraiment pas idéal.
Il y avait des abus.
Il y avait beaucoup d'abus, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à New York, en fait, elle m'a présenté un cambodgien, du coup, qui était, du coup, en charge du programme UNBRO. Donc, les deux, en fait, ensemble, ont dû faire constamment face, en fait, aux abus des Thaïlandais ou des gardes thaïlandais à l'époque qui traitaient un peu les réfugiés cambodgiens comme des moins que rien.
Quel genre d'abus?
Ce qui était recensé, par exemple, c'était un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec la Syrie, où vraiment on entasse ces gens dans les camps, on leur donne à peine à manger. Il y a beaucoup de politique qui est là, donc beaucoup de corruption, un peu des gardes dans les camps de réfugiés qui détournent un peu les fonds pour ne pas les donner aux réfugiés en fait. Donc il y a énormément de choses comme ça. Donc son ami du coup qui s'appelle Chuck Killin, qui était donc à l'ONU et qui était en charge du programme UNBRO, a même raconté qu'une fois il a reçu une lettre avec des balles dans sa boîte aux lettres et c'était vraiment ce genre de menaces ou d'abus en fait dont il faisait face constamment.
Comment s'appelle ta grand-mère?
Elle s'appelle Nun Lai.
Donc elle est partie, elle avait en plus une vie confortable en France, qu'elle avait reconstruit sa vie en France.
Exactement.
Ouais. Et elle a choisi de retourner dans l'horreur finalement des camps pour pouvoir aider les autres.
Ouais.
Comment ça s'est passé? Quel a été son déclic? Comment elle a réussi à entrer comme ça dans un organisme de l'ONU?
Déjà, je pense qu'elle était volontaire. Elle avait réussi à être en contact du coup avec les gens qui cherchaient des traducteurs cambodgiens, français, anglais. Donc c'est comme ça qu'elle a pu rentrer. Puis après le fait d'être cambodgien, comme les langues sont très similaires, c'est très facile pour elle d'apprendre le thaï. Au fur et à mesure, elle a appris le thaï et je pense que c'est vraiment les compétences linguistiques qu'elle a qui a fait que elle était la bonne personne entre guillemets pour aider les réfugiés. Ouais.
C'est fascinant. Ouais. Et elle est restée combien de temps dans...
Donc elle est restée donc de 85 à 92. Je sais pas exactement ce qui s'est passé entre 92 et 94, et elle a décidé de retourner au Cambodge en 94. Elle travaillait au Cambodge, donc elle était head manager de Ernst & Young. Elle avait vraiment aussi là encore la compétence pour Ernst & Young, mais pour le coup il fallait quelqu'un qui ait cette connaissance locale, qui sait comment les manières fonctionnent, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de codes entre on va dire subtils en fait, et du coup ils avaient besoin d'une personne qui avait aussi la double culture, parce qu'elle avait aussi la culture occidentale, mais qui pouvait à la fois bien parler au Cambodgien. Son rôle c'était principalement du relationnel, faire en sorte que les compagnies comprennent, qui s'implantent au Cambodge du coup comprennent la subtilité un peu locale des choses.
Tu as une grande admiration envers ta grand-mère. Est-ce qu'elle t'avait raconté des anecdotes? Qu'est-ce qu'elle a voulu te passer comme message, des valeurs?
J'ai l'impression que c'est surtout le travail, parce qu'elle est assez fière de, son parcours entre guillemets, surtout à Ernst & Young. En 2008, elle a été élue meilleure manager d'Asie Sud-Est en 2008. Elle a toujours voulu me dire, tu sais, il faut que tu sois correct avec les gens et les gens reconnaîtront ton travail. Même moi, quand j'y pense, donc le monsieur Choi Ki-lin, qui du coup a été en charge du programme UNBRO, donc des réfugiés, m'a dit que ma grand-mère était first class woman. Enfin, moi, je vois, c'est-à-dire que dans son sens de la dédication, elle suit toujours ses principes. Elle fait toujours en sorte que les choses arrive au bout. Donc si elle a commencé quelque chose, elle va toujours s'obstiner pour que ça arrive. Mais moi, c'est plutôt son courage entre guillemets qui m'a le plus marqué, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a risqué sa vie à deux reprises, une fois pour sauver ses enfants, et puis après une autre fois en Thaïlande, où elle a aidé nombre de réfugiés et nombre de ma famille du coup qui est toujours en vie entre guillemets grâce à elle. Donc c'est ça qui est...
Oui, c'est le dévouement, alors qu'elle n'était vraiment pas obligée de repartir à ce moment-là.
Exactement.
C'est un choix, c'est du volontariat aider ces personnes-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, comme tu le mentionnais par exemple en Syrie, mais il y a d'autres camps de réfugiés, il y a énormément de migration encore dans le monde, migration due aux guerres, à des conditions économiques, etc. Comment toi, tu ressens ces choses-là? Comment tu réagis? Est-ce que ça fait écho à ton passé? Enfin, en tout cas, aux histoires que tu racontais de ta grand-mère. Quelle est ta réaction?
Enfin, je peux pas m'empêcher de ressentir un peu j'ai cette espèce de compassion que je ressens par rapport aux réfugiés syriens. Et quand je vois, entre guillemets, le rejet qu'on voit, qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas les accueillir, je peux pas m'empêcher de penser un peu à l'histoire de mes parents, de trouver ça inhumain. Enfin, je pars du principe que je dois beaucoup à la France aussi. Sans leur aide, sans leur accueil, peut-être que ma famille n'aurait pas survécu. Donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et j'ai peut-être l'impression, après j'y étais pas dans les années 70, mais j'ai peut-être l'impression aussi que les temps ont changé entre guillemets pour les Syriens, qu'il y a beaucoup plus de réticence en fait pour les accueillir eux. Donc ça me touche encore plus, parce que je me dis que si mes parents en fait ont pu être accueillis, pourquoi pas eux. Et finalement là, il y a beaucoup de politique par rapport à est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas, et on fait pas forcément la bonne chose par rapport à ça.
Oui, on sent que l'Europe se ferme ses frontières, que finalement ces personnes sont exactement dans la même situation que ce qui était arrivé dans les années 70, mais le contexte économique a changé également.
Exactement, oui. Donc c'est vrai que, enfin, si on parle du contexte économique, c'est pas forcément la bonne période pour l'Europe pour accueillir ces migrants, mais après, enfin, c'est là où j'ai envie de te dire qu'il faut peut-être mettre l'humain sur l'économie ou sur le marché.
Toi, tu as une sensibilité par rapport à ça. Est-ce que tu t'engages dans des associations dans la région?
C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais à New York, j'ai eu la chance de travailler pendant 6 mois en fait pour cette association qui s'appelle International Rescue Committee, qui est une ONG qui est encore plus vieille que l'ONU, qui a été fondée par Albert Einstein. Et du coup, moi, je travaillais directement sur la problématique de camps de réfugiés au Liban. Forcément, je voulais faire ça. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer, faire une carrière dedans. Et après, le problème, c'est que le monde des ONG n'est pas forcément le plus agile, le plus actif, sauf par exemple pour les camps de réfugiés. Je critique absolument pas ce qu'ils font. Après, vis-à-vis du Cambodge, je pense que c'est plus entre guillemets l'entrepreneuriat je pense que ça va être plus efficace qu'une simple association, qu'une simple ONG. Donc c'est le point de vue que j'ai décidé de prendre. Et donc après, ce que je fais, donc moi je suis data scientist, qui est une carrière ou une industrie assez nouvelle. Du coup, je me suis dit que je peux en fait aider le Cambodge par rapport à ses compétences que j'ai. Donc moi, je fais partie de quelques associations au Cambodge, dont une qui s'appelle Data Residence, qui en fait cherche à promouvoir ses compétences data science, qui essentiellement sont de l'informatique, des mathématiques et des statistiques, parce que de plus en plus d'industries s'ouvrent entre guillemets au big data. Et ça va arriver au Cambodge prochainement, enfin prochainement. Donc moi j'essaie de faire beaucoup de présentations, de faire beaucoup de partage de compétences à travers ces associations-là. Et puis aussi rencontrer des acteurs possibles pour pouvoir peut-être un jour monter ma boîte avec eux. Donc,
oui, tu as déjà une belle vision parce que tu es quand même jeune. À quel âge as-tu?
J'ai 24 ans.
Ouais. Ah oui, non, tu es très mûr. Non, mais c'est vrai que je trouve que tu démontres une grande sensibilité, une grande maturité déjà, avec une vision pour ce que tu peux faire avec tes propres compétences et avec les affinités professionnelles que tu peux avoir pour justement avoir un impact et aider le pays de tes origines et rendre hommage peut-être au parcours de ta grand-mère que tu admires. Est-ce que tu sens qu'il y a un appel de la part du Cambodge envers tous ces anciens Cambodgiens? Est-ce qu'il y a une problématique du retour qui est favorable maintenant pour tous ceux qui ont grandi à l'étranger? Tu parlais de diaspora aux États-Unis. Est-ce que tu sens que le Cambodge maintenant fait appel et favorise par exemple l'expatriation, l'installation de ces anciens Cambodgiens?
Alors de ces anciens Cambodgiens en particulier, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de Cambodgiens qui retournent un peu pour ce besoin de redonner au pays, mais à la fois aussi par l'opportunité économique, parce que j'ai quelques membres de ma famille qui ont décidé de retourner au Cambodge simplement par opportunité économique, et à la fois ils ont pu aider le pays parce que ils engagent du monde, ils les forment, ils les font travailler dans de très bonnes conditions tout en s'enrichissant. Donc c'est un peu ça ma logique de développement par le marché. Est-ce que le Cambodge en lui-même fait un appel aux anciens? Je pense pas, non, mais je pense qu'il y a quand même toute cette ouverture par rapport au commerce, même s'il y a bien sûr, sur le plan des droits humains, il y a encore beaucoup de problèmes. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'efforts pour attirer les investissements étrangers.
Ce sont surtout des capitaux chinois pour l'instant qui arrivent.
Ce sont surtout des capitaux chinois pour l'instant qui arrivent, mais par exemple, si je veux demain, moi, créer une entreprise, il y a beaucoup de réformes qui ont été menées récemment pour que je puisse lancer ma boîte de la façon la plus fluide possible, en fait. Donc, je trouve qu'il y a cet effort-là. Après, pour retourner à ta question originelle, qui est de, est-ce que vraiment il y a un appel du Cambodge pour que les anciens réfugiés, du coup, reviennent au pays? J'ai l'impression que c'est plutôt une démarche des réfugiés en eux-mêmes. Je pense que le Cambodge, maintenant, il attend personne. C'est-à-dire qu'il se développe, et si les anciens réfugiés reviennent, tant mieux. Je pense pas que le Cambodge en soi attende les anciens réfugiés pour se développer.
Donc les gens reviennent par opportunité économique. Par rapport à la France, tu veux dire qu'il y aurait plus d'opportunités professionnelles à saisir maintenant au Cambodge qu'en France ou qu'en Europe?
Bah moi je dirais oui. Après, c'est pas forcément donné à quelqu'un qui n'est pas cambodgien, parce que je sais que le fait d'être cambodgien d'origine fait qu'on va être plus à même de comprendre la culture locale, et le fait aussi d'avoir une famille aussi qui est implantée là-bas. Il y a quand même ce coup de pouce entre guillemets qui nous aide à, je sais pas, monter une boîte. Donc moi je vais donner un exemple. Comme il y a beaucoup de choses en fait qui fonctionnent par la corruption au Cambodge, donc moi j'ai obtenu ma nationalité cambodgienne en glissant par exemple un billet sous la table, quoi. C'est très très commun ce genre de pratique au Cambodge, et c'est ce genre de choses qu'il faut connaître. Et ma tante disait de ma grand-mère que une des plus grandes qualités de ma grand-mère, c'est-à-dire qu'elle sait comment vivre en Asie. C'est-à-dire qu'elle connaît l'école les plus subtiles. Elle sait comment naviguer, elle sait comment s'adresser à certaines personnes.
Enfin, sans porter de jugement de valeur, parce que c'est vrai qu'on peut arriver avec nos yeux d'occidental en disant non, moi je touche pas à ça, je ne fais pas ça, et puis finalement perdre, ne pas comprendre les codes, finalement. C'est
exactement
ça que tu veux dire.
Exactement. Le jour où je suis allé faire ma nationalité cambodgienne, donc il y a eu le petit billet qui est passé sous la table, et en fait c'était une dame qui s'occupait de mon dossier. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a glissé un rouge à lèvres aussi. Elle lui a dit, ah, mais tu sais, entre femmes, il faut vraiment s'entraîner.
c'est ta grand-mère
C'est ma grand-mère qui a fait ça devant moi. Et j'ai trouvé ça vraiment très subtil à la fois. J'ai dit, ah ouais, donc elle sait vraiment comment parler aux gens, comment obtenir ce dont elle a besoin. C'est quelque chose, en fait, que, enfin, pour revenir à la question de départ, est-ce qu'on a plus d'opportunités économiques au Cambodge? Je dirais oui, mais le fait de pas forcément connaître les codes peut être un peu plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas les codes, qui n'a pas forcément de contact implanté là-bas pour venir.
Et est-ce que au niveau des infrastructures, tu penses que le pays est prêt?
Je pense que en tout cas dans la capitale, les infrastructures sont de mieux en mieux. On a quand même vraiment un grand problème d'éducation, mais je pense que maintenant les universités locales se développent de plus en plus. Il y a de plus en plus de programmes qui vise à apporter une formation. Je sais que c'est là où les ONG en fait sont quand même assez efficaces au Cambodge, c'est que il y a quand même pas mal d'ONG qui donnent des cours assez abordables pour apprendre l'anglais. Donc je sais que les Cambodgiens maintenant parlent très bien l'anglais. Moi ça me choque parce que on peut avoir une conversation, on peut obtenir ce qu'on veut en fait en parlant anglais avec à peu près n'importe quel local. En fait, c'est marrant parce que maintenant ils connaissent un peu même les expressions un peu de la vie de tous les jours. Et ils sont capables en fait de vraiment te donner ce que tu veux, quoi.
Donc ils ont appris très rapidement par leurs propres moyens, sans avoir été éduqués à l'école. Tu sais, c'est pas le système éducatif national qui les a éduqués. Mais à travers ces associations ou des enseignants volontaires, etc.
Exactement. Oui.
Pourquoi as-tu souhaité reprendre une nationalité cambodgienne, enfin en demander une nationalité cambodgienne alors que tu as déjà une nationalité française et...
Déjà, en fait, c'est à la fois sentimental et à la fois économique, parce que sentimental, parce que du coup, ce qui est bien entre guillemets avec les passeports cambodgiens et français, c'est que je peux cumuler les nationalités. Donc le fait en fait de me dire je suis cambodgien, j'ai la nationalité cambodgienne, ça me fait vraiment me sentir cambodgien. Et aussi pour plus tard, si un jour je m'implantais au Cambodge, je sais que j'aurai des privilèges qu'un étranger n'aura pas, parce que j'ai la nationalité cambodgienne, je pourrais acheter, ça serait plus facile pour moi par exemple d'acheter un terrain, d'acheter un bâtiment, d'acheter un appartement. D'un point de vue pragmatique et d'un point de vue sentimental, ça les deux allaient.
Oui, surtout que c'est possible, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres nationalités.
Exactement. Ouais.
Ta grand-mère, elle a connu la colonisation française ou les restes de la colonisation française?
Exactement, oui. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que la France était un choix idéal, entre guillemets, pour la terre d'accueil. Parce qu'en fait, donc, c'était avant l'indépendance, faudra regarder, mais si je dis pas de bêtises, avant l'indépendance, en 1963, tout était conduit en français. Donc, c'est-à-dire que la langue de gouvernement était conduite en français, et même un peu après l'indépendance, la langue de service était encore le français. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est même jusqu'en 75, avant que le roi Norodom Sihanouk fasse des efforts, en fait, pour rekhmériser l'éducation, la langue officielle du gouvernement, d'administration était en français. Donc, comme mes deux grands-parents travaillaient dans les ministères, ils parlaient déjà français couramment, ils avaient fait leur éducation en français, dans les lycées français. Ou même, pas forcément les lycées français, mais par la colonisation, en fait, le français était obligatoire comme langue. Et donc, comme ils parlaient déjà très bien français, c'était assez logique qu'eux aillent en France. Mais ce qui est assez drôle, c'est que mes parents, du coup, ne parlaient pas français, parce qu'ils sont nés au moment de la rekhmérisation de l'éducation. Et donc, mon père, en fait, quand il est arrivé en France en 74, du coup, il a dû un peu apprendre sur le tas.
Quel âge avait-il?
Mon père, il avait 14 ans. Et ma mère, quand elle arrivait, elle avait 13 ans, en 75. Et ma mère, en fait, était dans une école australienne, donc elle parlait anglais à la base. Et donc, finalement, elle aussi a dû apprendre le français, sur le tas, quoi. Mais pour le coup, mes grands-parents parlent déjà français couramment.
Ouais, donc ta grand-mère, elle a su déjà louvoyer, naviguer entre toutes ces cultures depuis sa jeunesse, en fait.
Depuis sa jeunesse, en fait.
On a souvent évoqué avec les autres invités des épisodes de racisme, de discrimination, de problèmes identitaires, des questionnements à ce propos-là. Je n'ai pas l'impression que tu étais victime de racisme en France. Est-ce que ça a été le cas ou
Non, parce que comme j'ai grandi en banlieue parisienne, du coup c'était assez divers, assez mixte. Et quand on est enfant, en fait, on a l'habitude un peu de se moquer des origines des uns des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un se moquait de mes origines, du coup moi je me moquais assez volontiers de son origine aussi. Donc c'était de bonne guerre, c'était assez enfantin. J'ai pas forcément connu de racisme un peu particulier. Mais ce qui est assez marrant par rapport à mon identité, c'est que ayant grandi en France, je me voyais comme très très cambodgien. Et après le fait d'être parti aux États-Unis pour mes études, là j'ai eu un choc parce que là on me taquinait plus pour être cambodgien, on me taquinait parce que j'étais français. et du coup en fait on faisait des blagues sur la Seconde Guerre mondiale ou sur les Premières Guerres mondiales. On me traitait de lâche entre guillemets parce que la France en fait avait besoin de l'aide des Américains pendant les deux guerres mondiales et je me faisais beaucoup attaquer là-dessus. C'est-à-dire que moi qui avais plutôt l'habitude de me faire attaquer sur mes origines asiatiques, là je me faisais attaquer par rapport à mon côté français. Et moi, j'avais l'habitude un peu de savoir comment répondre à les attaques sur les origines asiatiques, mais par contre sur le côté français, j'étais un peu sans voix au début. Parce que...
Mais tu t'y attendais pas du tout, c'est déstabilisant.
C'est déstabilisant, ouais.
Donc tu t'es retrouvé à défendre ton identité française.
Exactement, ouais. Donc je me suis retrouvé à défendre mon identité française. Et c'est à ce moment-là aussi aux États-Unis que je me suis rendu compte à quel point j'étais français. Dans mes habitudes, c'est-à-dire que j'aime le vin, j'aime le fromage, j'aime le saucisson. Je m'habille d'une certaine façon qui est différente des Américains. Les gens me disaient beaucoup « Kilian, you're so French ». Et c'est quelque chose, en fait, que
t'as pas eu en France,
Que j'ai pas eu en France, quoi. Ouais, que j'ai pas eu en France. Et surtout, en fait, New York est une ville très cosmopolite. Eux, si tu leur dis que t'es français, même sans forcément être blanc, ils vont te le dire, ils vont te dire « Bon, d'accord, t'es français, quoi ».
Et qu'est-ce qui était français en toi? À part l'histoire, à part le passeport qui fait que t'as assimilé à l'histoire française, mais qu'est-ce qu'ils trouvaient français en toi dans tes goûts gastronomiques, ta façon de t'habiller, quoi d'autre?
Surtout mon sarcasme, mon ironie. C'est-à-dire qu'en fait, les Français sont un peu plus taquins, Berlin, ils sont un peu plus secs. Et beaucoup de gens pensaient que j'étais vraiment quelqu'un de méchant. Parce que c'est-à-dire qu'au début, j'exprimais beaucoup de choses par le sarcasme, que les Américains, du coup, prenaient vraiment au premier degré. Et au début, ça m'a valu un peu quelques problèmes parce que je pouvais dire quelque chose d'un peu taquin, d'un peu méchant, sans le penser pour autant. Je pense que quelqu'un de français, en fait, l'aurait compris tout de suite. Et au final, j'ai dû apprendre à être un peu plus direct, à être un peu plus explicite quand je veux parler anglais. Parce que sinon, les gens pensaient que j'étais méchant. Ou,
d'accord, voilà. Donc pas de second degré, sarcasme, d'ironie.
Ouais, exactement. Ouais.
Et en France, les moqueries ou les petites blagues portaient plutôt alors sur le côté cambodgien, asiatique. Enfin, j'imagine que c'est classique.
Oui, exactement. Oui, voilà. C'est très classique. C'est très.
Bon, ça t'a pas particulièrement blessé
Non, comme tu sais, c'était le fait que, enfin, surtout mes amis, en fait, du coup, acceptaient que je me moque de leurs origines aussi. Donc, finalement, c'était de bonne guerre.
Oui,
donc, on pouvait vraiment se moquer l'un de l'autre sans que ça nous porte préjudice, parce qu'il y avait pas forcément comme on était amis, il y avait pas de malice entre guillemets dans leur geste. Je considère pas que j'ai été victime de racisme du tout dans ma scolarité ou en ayant grandi. Donc, ouais.
Et à la maison, tu revenais dans un univers très asiatique quand tu rentrais chez toi, ou tes parents étaient déjà bien intégrés?
Je pense que du coup, pour le coup, mes parents étaient quand même assez intégrés. Mon père, c'est quelqu'un qui adore l'alcool, qui adore le vin, qui adore le fromage, qui mange énormément français. Pareil pour ma mère, elle a appris à cuisiner le pot-au-feu, enfin toutes ces traditions françaises. J'étais assez mixte, sans être métisse, mais j'étais assez mixte parce que mes parents, voilà, ils ont quand même appris à vivre à la française. Et par exemple, pour mes oncles et mes tantes, qui sont à la retraite maintenant, pour eux, c'est impossible de vivre toute l'année au Cambodge. C'est-à-dire qu'ils font souvent 6 mois au Cambodge, 6 mois en France, parce qu'à un moment, ils n'en peuvent plus de rester trop longtemps au Cambodge. Ils se disent, maintenant, notre maison est aussi la France. Donc, ouais.
La France leur manque trop.
La France leur manque trop.
Et alors, du coup, quand tu es arrivé ici à Singapour, comment les gens t'ont perçu? Qu'est-ce qu'ils ont vu en toi? Le côté français ou le côté asiatique? Le côté cambodgien? Qu'est-ce qui...
Pour les Singapouriens, voir un Français qui n'est pas blanc, contrairement à New York, c'est plus difficile pour eux à accepter. Donc, quand je me présente et qu'ils me demandent d'où je viens, je leur dis tout de suite, je suis franco-cambodgien. Donc, je leur dis, mes parents sont cambodgiens, mais j'ai grandi en France. Et du coup, maintenant, ils me voient comme franco-cambodgien, ce qui est pas forcément une nouvelle chose, parce que du coup, ils se disent, il a grandi en France, mais il a quand même le côté asiatique. Ce qui fait que je peux quand même,
c'est un bon compromis.
Ouais, je peux m'assimiler à eux assez facilement, quoi.
Et l'expression banane, tu la connaissais déjà en France ou tu l'as découverte en Asie?
Je pense que j'ai découvert en Asie, justement, en entendant parler du groupe de Sanga Banana. Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et comment tu le prends, ça, cette expression?
C'est une bonne question. Au début, je ne sais pas si je m'assimilais forcément, en fait, à être une banane, parce que c'est peut-être le côté blanc à l'intérieur. Et moi, j'ai plutôt cette vision un peu cosmopolite des choses.
Ouais.
Moi, je dirais que je suis plutôt une espèce de milkshake, entre guillemets, où le jaune et le blanc mignon. Se mélangent avec d'autres couleurs aussi. Donc,
ouais. Alors, écoute, on va rester là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Kylian, ouais, pour ton témoignage aujourd'hui. J'aurais encore une foule de questions, mais il faut qu'on s'arrête. Ouais. Le temps a passé trop vite. Merci, Kylian.
Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous mettre des étoiles et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @banana.split.project, pour voir des vidéos de nos invités, des petites vidéos bonus, ainsi que des petites vidéos explicatives que je mettrai désormais sur certains sujets pour approfondir un petit peu des points de l'histoire. Merci, à bientôt !